pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de pluriel est Nora Mebarek, eurodéputée socialiste, porte-parole du PS. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors on va commencer par la nouvelle qui est arrivée cette semaine, le décès de l'ancien président Giscard d'Estaing à l'âge de 94 ans. Il n'est pas de votre sensibilité politique, pour autant, en tant que républicaine, j'imagine que vous avez quelque chose à nous dire sur le septennat du président Giscard d'Estaing.
Oui, d'abord, évidemment, je présente toutes mes condoléances à sa famille et à toutes les personnes qui l'ont accompagné dans sa longue vie politique. Alors, il n'a pas été mon président en tant qu'adulte, puisque mais grâce à lui, j'ai pu voter, et ça, c'est une première chose, à 18 ans, en 1981, pour François Mitterrand, puisqu'il avait été l'artisan de cette loi de majorité qui est passée de 21 ans à 18 ans. Et donc, en tant que jeune femme à l'époque, ça m'a permis de m'exprimer une première fois sur ces élections présidentielles. Et puis, évidemment, en tant que jeune femme, je me souviens qu'il a été très volontariste et accompagnant la libération de l'IVG, la sécurisation et l'encadrement, enfin, l'interruption de volontaire de grossesse rentrée dans la loi de manière sécure pour l'ensemble des femmes. Alors, ça n'a pas été mon combat, moi j'en ai bénéficié, mais d'avoir évidemment pu grandir dans ce contexte-là en tant que femme, je reconnais l'action politique de l'époque courageuse. Ensuite, en tant que femme aussi, sur le divorce en consentement mutuel, parce que ça permettait, et ça permet encore aujourd'hui de faciliter le divorce, particulièrement des femmes qui ne sont plus attachées à devoir trouver la faute ou répudier. Et donc, c'est aussi une grande avancée pour les femmes à l'époque. Et puis, en tant que parlementaire européen, je n'oublie pas que c'est sous sa présidence que le Parlement européen est né. Et à l'heure où la conférence sur l'avenir de l'Europe s'ouvre, je pense évidemment à Giscard d'Estaing et particulièrement à sa tortue à tête de dragon pour, sur ses travaux, où à l'époque il devait réunir 105 conventionnels pour trouver un accord entre les fédéralistes, déjà à l'époque, et les intergouvernementalistes, où il savait que le chemin allait être long pour une construction européenne, mais il a donné ce visage de modernité et en tout cas d'accès à l'Europe lors de sa présidence.
Nora Mebarek, le Parti Socialiste a apporté son soutien à l'Arménie dans le conflit du Haut-Karabakh qui s'est soldé par une victoire de l'Azerbaïdjan. Le PS qui a déclaré que le règlement du statut du Haut-Karabakh ne peut être acquis par la force armée et la capitulation imposée à l'une des parties. Une délégation du PS conduite par Olivier Faure se rend dans ce territoire dans les jours qui viennent. D'abord, quel est l'enjeu de ce conflit auquel sont mêlés aussi la Russie et la Turquie?
Alors, bien évidemment, le Parti Socialiste demande la reconnaissance du Haut-Karabakh et c'est la raison du déplacement d'Olivier Faure qui s'y rendra justice au 9 décembre sur place, à la fois pour rencontrer des délégations des autorités arméniennes, mais aussi tout le volet de l'aide humanitaire apportée à la population sur place. Alors, nous avons, nous, parlementaires européens, été en action dès la fin octobre avec une lettre co-signée par l'ensemble des parlementaires européens de gauche qui alertait le Haut-Commissariat des Affaires étrangères sur la situation à l'époque, c'était pas encore le traité de paix, mais sur l'agression militaire contre le Karabakh, ils ont demandé notamment de dénoncer l'agresseur, et j'y reviendrai sur l'ingérence à la fois de la Turquie et de la Russie, mais aussi de lancer une opération humanitaire fin octobre et de reconnaître la République d'Artsakh. Pourquoi on est très mobilisés, nous Français, particulièrement les socialistes français, parce que l'Arménie, et ce que dit le peuple arménien en tant que Français, on en a une responsabilité toute particulière, car c'est dans notre pays que de nombreux Arméniens ont trouvé refuge, pendant et après le génocide mené par l'Empire ottoman. Cette mémoire doit demeurer vivace. Nous permet de réaffirmer au Parti Socialiste notre solidarité dans la douleur au peuple arménien, mais aussi quelle est la priorité, qui c'est d'obtenir des engagements fermes du pays, enfin, des pays du groupe de Minsk. Alors je vous rappelle, la France, les États-Unis et la Russie, pour aboutir à la paix dans la région avec un règlement durable et acceptable pour tous. Ça passe, à notre sens, par la demande de la reconnaissance du Karabakh.
Alors, vous avez parlé de la Turquie. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a critiqué Ankara. Il a dénoncé, je cite, « les manquements aux règles de l'OTAN et la politique du fait accompli menée par la Turquie dans plusieurs crises régionales ». Les Européens doivent-ils envisager des sanctions contre la Turquie ?
Pour l'Europe, avec la Turquie, vous rappelez, c'est une histoire de longue date. Ça fait plusieurs années maintenant que nous nous retrouvons systématiquement porte-à-faux avec la Turquie sur les grandes questions de politique étrangère. La Syrie, la Libye, le gaz en Méditerranée, l'accueil des réfugiés et maintenant le Haut-Karabakh. Pourtant, il n'est pas si loin, le temps, en tout cas, je pense que chacun d'entre nous, on s'en souvient, où la Turquie est engagée dans le processus d'adhésion à l'Union européenne. Il y a à peu près 16 ans précisément que la Commission européenne reconnaissait le respect des critères de Copenhague par la Turquie, c'est-à-dire son respect de l'état de droit. Et à l'époque, Erdogan en était un artisan puisqu'il était déjà Premier ministre. Bon, beaucoup de choses ont changé en Turquie depuis. L'État s'est progressivement écarté du chemin de la démocratie et du multilatéralisme, mais il y a incontestablement un lien entre l'évolution récente de la Turquie, son agressivité croissante à notre égard et le revirement de l'Europe sur la question de l'adhésion qui cumule en 2016 avec la demande du Parlement européen de geler les négociations. Cela veut dire qu'au moins une partie de la réponse pour retrouver dans la Turquie, ce grand pays à cheval entre l'Asie et l'Europe, la Méditerranée et la Russie, un voisin, un partenaire fiable et coopératif, passe par une remise en question aussi de l'Union européenne et de ses États membres. Nous devons reconnaître que nous avons collectivement en Europe une responsabilité sur l'évolution de la Turquie afin d'être en mesure d'influer sur son changement de cap. Je pense que le peuple turc ne s'est jamais senti aussi proche de la fin d'un processus et Erdogan doit être ciblé comme celui qui fait un choix qui est contre le peuple turc et contre la Turquie.
Alors j'aimerais qu'on aborde un sujet dont on parle peu en France. C'est le projet Hercule. Il s'agit de la réorganisation d'EDF, un projet qui provoque la colère des syndicats. C'est un sujet aussi que la Commission européenne et le Parlement européen regardent de près. Qu'est-ce qui se joue avec ce projet Hercule de réorganisation d'EDF ?
Alors, 25 ans après le début de l'hybridation, voilà où nous en sommes. Nous avions un outil industriel et stratégique que le monde nous enviait. Aujourd'hui, les propres administrateurs n'imaginent pas d'autres options pour survivre que la vente à la découpe. Alors, s'il fallait une seule illustration des dangers de l'idéologie néolibérale, celui-ci suffirait. C'est dans cette affaire, l'Europe de la droite a l'entièreté de la responsabilité. Nos gouvernements successifs ont fait ce qu'ils ont pu, du moins jusqu'à Sarkozy avec la loi NOM de 2011, de mémoire, pour résister à la vague. Mais la volonté de la Commission de détruire le service public de l'énergie en Europe confine à l'obsession. Sincèrement, pensez qu'aujourd'hui la Commission a osé suggérer à EDF de se transformer en simple holding, une coquille vide, sans centrale, ni éolienne, ni barrage, tout ça au nom du dogme de la libre concurrence, qui n'a que deux résultats pour les consommateurs que nous sommes, des prix en hausse et du service en baisse. Donc le plan arrêté par le gouvernement la semaine dernière n'est guère mieux, puisqu'il revient en bonne logique néolibérale à socialiser les pertes et libéraliser les profits. Donc des actionnaires privés, des fonds de pension ou d'investissement pourront se gaver sur le développement du renouvellement des énergies renouvelables, des hydroélectriques, pendant que le contribuable assumera seul le coût de la transition et de la facture du nucléaire historique. C'est un véritable scandale, honnêtement. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai saisi avec mon collègue sénateur Rachid Temal. J'ai pris publiquement position contre ce projet parce que ce qui confère à l'absurde, c'est qu'il est particulièrement dangereux que le gouvernement n'ait pas remis sur la table, et notamment la table des assemblées parlementaires, qu'elles soient Assemblée nationale ou Sénat, depuis janvier dernier, hormis les députés communistes d'outre-mer qui ont été entendus sur ce sujet, il y a eu une seule réunion sur ce cas, et le sujet est géré directement par le gouvernement sans passer par les organes de démocratie représentative que sont l'Assemblée et le Sénat. Et donc le Parti Socialiste et moi-même réaffirment toute notre solidarité au mouvement syndical. Et je peux vous dire que nous serons très attentifs et nous ne laisserons pas faire le gouvernement sans le Parlement et en tout cas la voix de la gauche dans ces instances-là.
EDF, c'est un secteur stratégique, c'est une atteinte à la souveraineté française. EDF, c'est tout de même les réacteurs nucléaires.
Tout à fait, et puis c'est un modèle que nous, qui était envié au niveau international. Nous avions, nous, la maîtrise encore de la stratégie de notre énergie, alors qui doit bien évidemment se transformer aujourd'hui en énergie renouvelable. Bon, aujourd'hui, la seule proposition, c'est de vendre à la découpe. C'est un scandale. Et quelle est la stratégie sur la renationalisation, mais la stratégie du gouvernement pour garder évidemment des patrimoines industriels comme EDF qui en plus participent à notre souveraineté nationale, notre indépendance énergétique.
Nora Mebarek, vous avez publié une tribune dans Libération intitulée « Prôner l'état de droit en Europe et en même temps en restreindre le champ en France, l'inconfortable grand écart ». Alors ce texte vise la Pologne et la Hongrie qui s'écartent des valeurs européennes, mais en même temps vous vous demandez si la France n'est pas elle aussi en train de s'éloigner de ses valeurs ?
Oui, alors je vais vous citer un exemple qui est illustrant, qui est arrivé d'ailleurs après la tribune. Vous avez entendu, comme moi, le Premier ministre a indiqué qu'il allait rétablir les frontières intérieures pour empêcher les gens d'aller skier ou faire de la luge dans les pays frontaliers. Bon, alors ça s'appelle, je crois, le code Schengen. J'imagine que le Premier ministre sait que nous sommes donc sur un territoire codifié qui s'appelle l'espace Schengen en Europe et que la gestion, le contrôle aux frontières, le rétablissement des contrôles, eh bien, le ski ou la luge n'en font pas partie, c'est juste la loi. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons, sous prétexte de crise sanitaire, vécu depuis quelques mois, depuis le mois de mars, véritablement une régression de nos libertés. Ça pose question. Mais c'est le seul pays européen qui aujourd'hui à avoir une attestation pour pouvoir sortir, expliquer où nous allons, justifier nos déplacements et maintenant encore plus pouvoir rétablir les contrôles aux frontières de l'intérieur de l'Europe pour les gens qui seraient en situation de devoir partir en vacances. Tout ceci, il faut dire, avec une dérive malheureusement sur la politique de sécurité globale où le débat confère en fait encore à l'absurde avec des essais de réécriture de l'article 24 mais qui du coup évidemment va enchaîner sur l'article 25 mais tout ceci par une commission extérieure mais en fait on s'est rappelé qu'en fait on est en démocratie et que la représentation nationale qui sont les députés et les sénateurs pouvaient et devaient écrire la loi, c'est leur rôle, fait que nous craignons et on l'entend plus en plus, et c'est tout l'objet de la tribune avec les collègues, on commence à parler de la France à Bruxelles comme on parle de la Pologne ou de la Hongrie, avec mesure évidemment par rapport à ces deux pays. Mais la France est en train de se transformer mesure après mesure, sous prétexte de état d'urgence sanitaire, d'état d'urgence sur le terrorisme, quand même à frôler un régime autoritaire, je veux dire, même si évidemment le recul des libertés publiques devient effarant. Donc la nouvelle doctrine du maintien de l'ordre dans notre pays nous fait revenir 40 ans en arrière. C'est la raison pour laquelle nous avons fait cette tribune d'alerte. Malheureusement, on n'a pas l'impression que ça va dans le bon sens, puisque je vous dis, quelques jours après, nous avons entendu le Premier ministre nous expliquer qu'il allait remettre et rétablir le contrôle aux frontières. Et puis, ce débat autour de la loi, la politique de sécurité, qui fait qu'aujourd'hui, on est presque devenu anarchiste de demander de la transparence sur l'état de droit. Et donc, à l'heure où le débat se porte en Europe sur le mécanisme d'état de droit qui conditionnerait donc l'aide européenne aux pays qui ne le respecteraient pas, nous demandons à la France et au gouvernement français de balayer un peu devant sa porte avant d'être sous tonnerre de leçons.
Nora Mebarek, parlons du Brexit. Les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne n'avancent pas. Le no deal se rapproche puisque la date butoir est le 31 décembre. Pourquoi est-il préférable de parvenir à un accord avant la fin du mois ?
Alors, je rappelle, hein, donc on a pour l'instant deux options officielles posées sur la table. L'Union européenne avec Michel Barnier, vous savez qu'il est monsieur Brexit, a tenu une position unie, vraiment sans précédent dans toute la durée des négociations qui sont maintenant entamées depuis 4 ans. Aucune fissure n'est apparue jusqu'à présent sur le front européen, et c'est à souligner parce que c'est rare. La stratégie britannique de diviser les Européens en jouant les Néerlandais, les Scandinaves, les Allemands contre les Français notamment, a totalement échoué, et c'est une bonne chose. Cette unité est un des rares motifs de satisfaction, d'espoir même, si tant est qu'on arrive à avoir de l'unité sur d'autres sujets majeurs. Ces dernières années en Europe, puisqu'elles démontrent quand même qu'un groupe pays uni et qu'un objectif concret pour réaliser que la machine européenne se met réellement en marche. Bon. Cela dit, effectivement, on arrive, et vous l'avez dit, très rapidement, au 31 décembre minuit, puisque c'est dans quelques jours aujourd'hui. Donc il y a deux options posées sur la table, le deal ou le no deal. Sur le deal, le Parlement a répondu qu'il se tenait disponible jusqu'au 31 décembre minuit, date butoir, pour ratifier l'accord. La seconde option, ce serait le no deal, mais elle, franchement, la responsabilité serait entièrement au gouvernement de Boris Johnson, et, qui a tout fait pour retarder l'issue des négociations. Donc il y a une troisième option qui est apparue très récemment, mais qui pose quand même sérieusement des questions en termes de démocratie, puisque ce serait celle de l'application provisoire d'un accord arraché in extremis, qui ne serait validé que par les États membres, mais sans le consentement du Parlement européen. Cela serait extrêmement dommageable, hein, donc à l'idée même de démocratie et de citoyenneté européenne, nous serons très vigilants pour éviter de se retrouver dans cette situation. Donc cette troisième option, si elle existe, doit être aussi ratifiée par le Parlement européen.
Pour terminer, Nora Mebarek, puisque vous êtes une eurodéputée très active, on se demande parfois à quoi sert l'Union européenne. Est-ce que, sur la question des vaccins, l'Union fait la force? Sur cet exemple particulier, il y a une stratégie qui va peut-être nous aider à résoudre cette crise sanitaire parce que les Européens sont unis.
D'abord, vous avez raison. Moi-même d'ailleurs, avant d'être député européen, je vous avoue que je me demandais un peu pragmatiquement dans mon quotidien à quoi pouvait servir l'Europe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a eu cette crise sanitaire qui est différente de la crise bancaire de 2008, qui était un peu plus éloignée de nos concitoyens. L'Europe, je crois, a été à la hauteur de la réponse, notamment au travers de son plan d'action pour la santé, puisque vous le savez, ce n'est pas une politique d'intérêt communautaire, mais il y a un plan d'action qui existait et qui a été renforcé de 2021 à 2027, et notamment pour créer une pharmacie européenne qui, du coup, pourrait répondre avec un budget 10 fois plus important que le premier programme. Donc ça veut dire que, enfin, les États membres ont compris l'urgence d'une pharmacie européenne, pour la simple et bonne raison, pour être indépendant face à la Chine, notamment, sur à la fois la part des médicaments, mais aussi de la recherche. Sur le vaccin, la Commission européenne est assez opaque. Sur le contenu des contrats qui ont été négociés au nom des États et des citoyens européens. C'est ce que le Parlement regrette. Le Parlement s'est mobilisé avec notamment des auditions menées par la Commission de l'Environnement et de la Santé publique. Son président, qui est d'ailleurs un eurodéputé français, M. Canfin, fait grand cas de l'opacité totale des négociations. Il dénonce. D'ailleurs, je l'invite parce que comme il est dans le groupe Renew, donc c'est un député parlementaire de En Marche, de aussi demander la même transparence au gouvernement de Macron. Mais notre sujet, c'est qu'on n'a aucune transparence sur la négociation et le contenu des contrats. Ça, c'est quelque chose qui fait qu'on a souci, vigilance, qu'aujourd'hui, rien n'indique que les compagnies pharmaceutiques ne vont pas nous vendre au prix fort ce que nous avons nous-mêmes déjà payé. Donc, résultat des courses, l'Europe a acheté des vaccins. Aujourd'hui, ces vaccins-là sont redistribués aux États membres. Je crois que la politique vaccinale pour la France, qui a déjà été annoncée par le Premier ministre, on teste et on va tester au moins 3 à 4 grandes métropoles dans les jours qui arrivent pour ensuite aller commercialiser le vaccin. Et le vaccin doit être accessible financièrement. Et donc c'est là le combat du Parlement européen, de savoir la transparence sur les contrats qui ont été passés avec les grandes firmes pharmaceutiques.
Merci Nora Mebarek. Je rappelle que vous êtes députée européenne socialiste et porte-parole du Parti Socialiste. Bonsoir.
Merci à vous. Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.